Chapitre 1. Je m'appelle Charlène Rosaline Carter Grant. Je vis à Boston, je travaille à Boston, et d'ici 4 jours, il est probable que je meure dans cette ville. J'ai 28 ans. Et je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Tout a commencé il y a 2 ans avec le meurtre de ma meilleure amie, Randy Menck, à Providence. Étranglée dans son salon. Aucune trace de lutte, aucune trace d'effraction. La police de Rhode Island a pensé un moment que son ex avait pu faire le coup. Je crois qu'il y avait des antécédents de violence conjugale dans le dossier. Rien dont Randy nous ait jamais parlé, à moi ou à la troisième de la bande, Jackie. Jackie et moi avons essayé de nous consoler avec cette idée, alors que nous pleurions toutes les deux à son enterrement. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas, sinon, évidemment, nous aurions fait quelque chose. N'importe quoi. Voilà ce que nous nous disions. Avance rapide jusqu'à l'année suivante, le 21 janvier. 1 an jour pour jour après le meurtre. Je suis chez moi avec Tante Nancy dans les montagnes du nord du New Hampshire. Jackie a repris sa vie de cadre supérieur chez Coca-Cola à Atlanta. Elle ne veut pas commémorer l'assassinat de Randy. Trop morbide, m'explique-t-elle. Plus tard, pendant l'été, on se retrouvera pour fêter l'anniversaire de Randy. On pourra, pourquoi pas, faire l'ascension du mont Washington, emporter une bouteille de whisky. On se saoulera un bon coup. On pleurera un bon coup, et on cuvera tout ça en dormant au refuge de Lakes of the Clouds, sur le sentier de randonnée des Appalaches. Le 21, j'appelle quand même Jackie. C'est plus fort que moi. Mais elle ne décroche pas. Ni sur son fixe, ni à son travail, ni sur son portable. Nulle part. Le lendemain matin, comme elle ne se présentait pas au bureau, la police finit par céder à mes instances et passa chez elle. Aucune trace de lutte, lirai-je plus tard dans le rapport de police. Aucune trace d'effraction. Juste une femme seule, étranglée au beau milieu de son salon, un 21 janvier. Deux amis inséparables, assassinés à exactement 1 an et à peu près 2 000 km de distance. La police locale a enquêté, même le FBI s'est penché dessus. Ils n'ont pas pu établir de lien concluant entre les deux meurtres. D'ailleurs, ils n'ont rien établi du tout. Malheureux hasard, a osé me dire l'un d'entre eux. Simple malchance. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier de la troisième année. Quelle dose de malchance vous croyez que je vais avoir le 21? Et qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'avais 8 ans quand j'ai fait la connaissance de Randy et Jackie. Après ce dernier drame avec ma mère, on m'a envoyé vivre chez ma tante Nancy, dans un coin perdu du New Hampshire. Elle est venue me chercher dans un hôpital du nord de l'État de New York. 2 parentes, 2 inconnus qui se rencontraient pour la première fois. Tante Nancy a posé les yeux sur moi et fondu en larmes. « Je ne savais pas, m'a-t-elle dit. Crois-moi, petite, je ne savais pas. Sinon, il y a des années que je t'aurais recueillie. » Je n'ai pas pleuré. Je ne voyais pas l'utilité des larmes et d'ailleurs, je n'étais pas certaine de la croire. Si j'étais censée vivre avec cette femme, alors soit. De toute façon, je n'avais pas d'autre endroit où aller. Tante Nancy tenait une maison d'hôte dans une jolie petite station touristique de la vallée du mont Washington, où les Bostoniens aisés et les New-Yorkais huppés viennent skier l'hiver, randonner l'été et profiter des couleurs de la forêt en automne. Elle avait une employée à temps partiel, mais elle comptait surtout sur elle-même pour accueillir les clients, faire les chambres, servir le thé, préparer le petit-déjeuner, indiquer des itinéraires et accomplir le million de petites tâches diverses et variées que suppose une activité hôtelière. Quand je suis arrivée, j'ai pris le relais pour le chiffon et l'aspirateur. Je pouvais passer des heures à faire le ménage. J'adorais l'odeur du détergent. J'adorais la sensation du bois fraîchement encaustiqué. J'adorais récurer le sol encore et encore et le voir chaque fois reluire comme un sou neuf. Faire le ménage, c'était contrôler. Tenir les ombres à distance. Pour mon premier jour d'école, Tante Nancy m'a accompagnée elle-même au bout de la rue. Je portais des vêtements neufs tout raides, notamment des chaussures Babies vernis noir que j'ai polies de manière obsessionnelle pendant 6 mois. J'avais l'impression d'attirer les regards. Trop nouvelle, trop récemment sortie de mon trou. Je n'étais pas encore habituée à tout ce bruit, à la clameur indissociable de la vie de village. Des voisins où que je pose les yeux. Des gens qui vous regardaient en face en souriant.
Ta théière est ternie,
ai-je dit à ma tante comme nous arrivions à ma toute première école.
Je vais rentrer te la stiquer.
Tu es une drôle d'enfant, Charlène. Je me suis arrêtée de marcher et j'ai massé mon côté, cette cicatrice qui me démangeait encore parfois. J'en avais d'autres des cicatrices, fines comme des toiles d'araignée, sur le dos de la main gauche, sans oublier la vilaine suture à mon coude droit, les traces de brûlures sur ma cuisse droite. J'aurais parié que les autres enfants ne portaient pas de telles marques sur leur corps, que leur mère ne les aimait pas autant que la mienne jurait m'aimer.
« Je ne veux pas y aller !»
Ma tante s'est arrêtée à son tour. « Charlie, il est temps que tu ailles à l'école. Alors je veux que tu franchisses fièrement ce portail. Je veux que tu marches la tête haute. Et je veux que tu saches que tu es la petite fille la plus courageuse, la plus solide que je connaisse, et qu'aucun de ces enfants ne t'arrive à la cheville. Tu m'entends? Aucun de ces enfants ne t'arrive à la cheville. » Alors j'ai fait ce que me disait ma tante. J'ai franchi le portail, j'ai marché la tête haute. Je me suis assise à une table au fond de la classe, et la petite fille à ma gauche s'est tournée vers moi en disant
« Bonjour, je m'appelle Jackie. »
Puis la petite fille à ma droite s'est tournée vers moi en disant
« Moi, c'est Randy. »
Et voilà, nous étions amis. Mais je ne leur ai jamais tout raconté. Vous voyez ce que je veux dire, pas vrai? Parfois, même à vos meilleurs amis, même à vos sœurs d'élection qui rient et pleurent avec vous, qui connaissent le moindre détail de votre premier béguin comme de votre dernière peine de cœur, vous ne pouvez quand même pas tout raconter. Même les meilleurs amis ont leurs secrets. Vous pouvez me croire, moi qui suis la dernière rescapée et qui viens de passer 2 ans à faire la terrible découverte de nos secrets respectifs. Nous avons grandi à une époque où l'enfance, la vraie, existait encore. Nous passions nos étés à vagabonder dans les bois, où nous construisions des forts à l'aide de branchages, et donnions des réceptions à base de soupe de glands et d'entremets à la pomme de pin. Nous organisions des courses de bateaux en feuilles dans les remous des ruisseaux. Nous découvrions des trous d'eau secrets pour y nager, et, en guise de téléphone portable, nous utilisions des boîtes de conserve reliées avec de la ficelle. L'été, j'aidais Tante Nancy matin et soir. Mais les après-midi m'appartenaient et j'en passais chaque minute avec mes 2 meilleurs amis. Déjà à l'époque, Jackie était le chef d'orchestre. Elle organisait tout, et si nous l'avions laissé faire, elle aurait sans doute mis sur pied un plan marketing et lancé une étude de marché sur nos futures possibilités de jeu. Randy était plus calme. Elle avait de beaux cheveux blonds comme les blés, qu'elle coinçait derrière ses oreilles. Elle préférait jouer au papa et à la maman dans le fort où elle savait toujours apporter la touche finale parfaite à la décoration, par exemple avec un montage créatif de baies et de feuilles. Grâce à cela, nous nous sentions comme chez nous au milieu de ce tas de branchages à moitié pourris assemblés au petit bonheur. J'ai vanté son savoir-faire auprès de Tante Nancy, et pendant une grande partie de nos années de lycée, Randy a donné un coup de main à la maison d'hôte le week-end pour installer les guirlandes de Noël, confectionner des centres de table pour la salle à manger, refaire la déco du salon. Jackie aussi venait. C'est elle qui a configuré le premier ordinateur de Tante Nancy, et le moment venu, qui lui a fait faire ses premiers pas sur Internet. Je n'avais ni le dynamisme de Jackie, ni les talents artistiques de Randy. Je me voyais comme le ciment du groupe. Tout ce qu'elle voulait faire, je le faisais. Toutes leurs passions, je les adoptais. Dans ma petite enfance, on m'avait appris à suivre, alors c'était ce que je faisais le mieux. Mais j'y mettais tout mon cœur. Je les aimais. Après avoir grandi dans le noir, j'avais trouvé la lumière en venant dans les montagnes du New Hampshire. Randy et Jackie riaient. Elles me demandaient mon avis, me félicitaient quand je tentais quelque chose, souriaient quand j'entrais dans une pièce. Peu m'importait ce que nous faisions du moment que je le faisais avec elles. Bien sûr, les enfants qui grandissent dans de petits villages ont inévitablement des rêves de grande ville. Jackie avait commencé le compte à rebours dès notre entrée au lycée. Elle n'en pouvait plus des voisins trop curieux, du théâtre amateur et du bureau de poste qui était aussi le principal lieu de rendez-vous des commères. Elle avait jeté son dévolu sur Boston College. Elle irait dans la grande ville et mènerait une existence de paillettes. Randy, la discrète, lui a soufflé la vedette. Par un week-end neigeux du mois de janvier, elle a rencontré un étudiant en médecine de Brown University sur les pistes de ski. Nous avons fini le lycée en juin et le 1er juillet, elle était mariée. Elle a rangé son enfance dans 4 cartons et elle est partie pour Providence, ravie d'avoir devant elle une vie de femme de médecin. Jackie a décroché sa bourse. Elle est partie en septembre et, pour la première fois en 10 ans, je n'ai plus su quoi faire de moi-même. J'ai décapé, poncé et ciré les parquets de Tante Nancy. J'ai nettoyé tous les rideaux à la vapeur, shampouiné tous les sièges, entrepris de classer les livres de la bibliothèque. Fin septembre, Tante Nancy m'a prise par la main. « Pars, » m'a-t-elle dit avec douceur mais fermeté. « Envole-toi. Et plus tard, quand tu seras prête, reviens à la maison. » J'ai atterri à Arvada, dans le Colorado. J'avais suivi un type que je n'aurais jamais dû suivre. J'ai fait des choses qu'il vaut mieux que Tante Nancy n'apprenne jamais. J'ai découvert à mes dépens qu'on ne peut pas toujours se contenter de suivre. Tôt ou tard, il faut trouver qui on est, même quand votre tante chérie et vos 2 meilleurs amis ne sont plus là pour vous guider. Après ma rupture, bien décidée à ne pas rentrer piteusement à la maison, je me suis portée candidate à un poste d'opératrice dans un centre de gestion des appels au 911. Principal attrait de ce travail, il n'y avait pas besoin d'un diplôme universitaire. Il suffisait d'avoir celui du lycée, des doigts qui tapaient vite, et une capacité innée à réagir dans l'urgence. Étant donné que c'était à peu près mes seules compétences, j'ai décidé de tenter le coup. Pour 30 000 $ par an, j'ai fait des horaires de dingue, j'ai renoncé à tout espoir de vie privée, et je me suis littéralement découvert une vocation. Je travaillais dans un centre opérationnel équipé de 22 lignes téléphoniques et de 4 radios, où aboutissaient près de 200 000 appels par an. Qu'on cherche à joindre la police, les pompiers, les urgences médicales, la fourrière animalière, tout était acheminé vers nous. Nous transférions les urgences médicales et les incendies à un 2e centre de régulation, mais il nous revenait de traiter tout ce qui était fourrière, police, appel de plaisantin, appel incohérent, appel réellement affolé ou hystérique. Un jour, pendant ma permanence, un collègue a sauvé la vie d'une femme en lui demandant de hurler jusqu'à ce que les individus qui s'étaient introduits chez elle paniquent et prennent la fuite. Une autre fois, un collègue a réussi à faire décrire par une adolescente grièvement blessée la voiture qu'il avait renversée. La victime est décédée avant l'arrivée de la police, mais son témoignage, enregistré chez nous, a permis de faire coffrer le chauffard ivre. Je pleurais avec les gens, je criais avec eux. Une fois, j'ai chanté des berceuses à un petit garçon de 5 ans enfermé dans un placard pendant que ses parents cassaient de la vaisselle et se lançaient des insultes à la tête. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce petit garçon. Mais il m'arrive de penser à lui, plus que je ne devrais. C'est pour ça que, au bout de 6 ans, j'ai quitté Arvada et je suis rentrée dans les montagnes. Je crois que j'avais perdu du poids. Je crois que je n'avais pas très bonne mine.
Oh, Charlène Rosaline Carter Grant, m'a dit Tante Nancy d'une voix douce à ma descente d'avion.
Elle m'a prise dans ses bras. Debout au milieu de l'aéroport, j'ai sangloté. Ma tante avait raison à l'époque. Il fallait que je m'en aille et maintenant c'était bon de rentrer. J'ai salué les montagnes. J'ai retrouvé avec bonheur mon village où j'étais entourée de voisins et où tout le monde vous regardait dans les yeux en souriant. Tante Nancy était devenue ma seule famille et ce village-là était en fin de compte devenu mon village. Je n'avais pas l'intention de repartir. Mais il faut croire que quelqu'un d'autre n'était pas de cet avis. Pendant les obsèques de Randy, je n'ai pas éprouvé la moindre sensation de danger. Mon amie d'enfance était morte, mais plus Jackie et moi en apprenions sur son ordure d'ex-mari, plus nous pensions connaître l'assassin. Le fait que la police ne puisse pas l'inculper ne signifiait pas que l'ex-violent et alcoolique n'avait pas sa mort sur la conscience. En tant que médecin, il en savait sans doute assez en matière de médecine légale pour effacer les traces de son crime. Et puis Randy était du genre à se laisser attendrir. On l'imaginait bien ouvrant la porte à son ex, même si le bon sens aurait dû l'en dissuader. J'ai passé un certain temps à plaider la cause de mon ami auprès des enquêteurs de Providence. Jackie nous a offert les services d'un consultant, un ancien agent du FBI installé dans l'Oregon pour qu'il se penche sur la scène de crime. Ni elle ni moi n'avons obtenu le moindre résultat. Et puis, un an plus tard, Jackie, qui vivait dans le centre d'Atlanta, qui était une vraie citadine aguerrie par la vie en entreprise et à bien des égards avertie. Qui avait-elle pu inviter chez elle ce soir-là? Par qui s'était-elle tranquillement laissée étrangler dans son propre salon, sans même opposer de résistance? Certainement pas l'ex-mari de Randy. Autrement dit, l'ex-violent n'était peut-être pas le meurtrier. Autrement dit, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaissait à la fois Randy et Jackie. Quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elles avaient confiance. Quelqu'un qui, par définition, devait forcément me connaître aussi. Parce que Randy et Jackie ne formaient pas un duo. Pendant 10 ans au village, on nous avait toujours surnommés Randy, Jackie, Charlie. Comme ça. Un seul nom pour une seule entité. Les trois mousquetaires. Un pour tous. Tous pour un. Deux d'entre nous étaient mortes. Est-ce que cela signifiait que j'étais la prochaine sur la liste? Contrairement à ce qui s'était passé aux funérailles de Randy, j'avais les yeux secs devant le cercueil en merisier de Jackie, et je dévisageais l'assistance dans le petit salon funéraire meublé avec goût dans le style victorien. Je scrutais les visages de mes connaissances, voisins, amis endeuillés. Je me demandais si, en ce moment même, quelqu'un qui se tenait non loin de moi comptait déjà les jours nous séparant du prochain 21 janvier. Mais pourquoi? Comment? Qui? Tant de questions. Je me disais qu'il me restait 362 jours pour y apporter des réponses. La cérémonie s'est achevée à 21h. À 21h15, j'étais en voiture, valise dans le coffre, la sensation du baiser sec de Tante Nancy encore sur la joue. J'ai roulé jusqu'à Boston, largué la voiture, jeté mon téléphone portable et tourné le dos à Tante Nancy, à mon village, aux montagnes et à la seule chance que j'avais eue de mener une vie normale. Comme on dit, espérer le meilleur n'empêche pas de prévoir le pire. Alors c'est ce que je fais. J'espère que la police fera son boulot et coincera le salopard qui a assassiné mes meilleurs amis. Mais le 21 janvier prochain, je prévois que, vers 20h, à en croire les rapports de police, quelqu'un pourrait bien venir s'en prendre à moi. Parce que, de Randy, Jackie, Charlie, nous sommes passés à Jackie, Charlie, puis juste à Charlie. Et peut-être que bientôt il n'y aura plus aucune de nous. Je n'ai plus d'amis. Je ne cherche pas à nouer de relations. Je vis à Cambridge, où je loue une chambre à une veuve à la retraite qui a besoin d'arrondir ses fins de mois. J'assume seule la permanence de nuit au standard téléphonique d'un commissariat qui compte un effectif de 30 agents dans la banlieue de Boston. Je travaille jusqu'à l'aube, dors toute la matinée. Je cours 15 kilomètres 4 fois par semaine. Je prends des cours de tir au pistolet, je fais de la boxe, de la musculation. Je me prépare, j'échafaude des plans, des stratégies. Je crois que, dans 4 jours, quelqu'un va essayer de me tuer. Mais il faudra d'abord que ce salaud m'attrape.